Permettez que je vous lise ceci au moment où le Saint-Père venait d'être mis sur le trône de la succession apostolique. Voici ce qu'il dit, je vous demande de ne pas noter, sinon on n'en finira pas.
Oui.
C'est une prière qui lui a été dictée. Mais un jour, ne vous inquiétez pas, on tapera ça, et tout ce que je vous ai dit par oral sera tapé, et on pourra vous le donner si vous le demandez. Enfant de lumière, tu peux tout réparer, alors prie ainsi. C'est joli que ça ait été dit le jour, au moment où le Saint-Père est mis comme pape, Jean-Paul II, puisque c'est lui qui institue. C'est lui qui aura la gloire, et qui a la gloire, d'instituer, de mettre en place le monde nouveau. Une douce lumière a éclairé mes yeux. Et j'ai senti en elle ta présence, ô mon Dieu. Elle était si profonde et si douce à la fois, qu'enrobée en elle, j'en demeurais pendant toi. Ô lumière du monde, c'est Jésus, je suis la lumière du monde. Ô lumière du monde, tu pénètres en moi et transformes les ondes qui les ramènent à toi. Les ondes, c'est, je vous l'ai dit, cette présence ondoyante et vivante, émanant de la grâce. Non, ça c'est la Vierge, ça, qui les ramène à toi. Dans un savant mélange, mon Dieu, tu y as mis l'homme, l'ange et Jésus et Marie. Un remous se prépare et monte lentement et entraîne par l'ange l'homme qu'il y a dedans. Ô Saint-Esprit, j'entre de plein pied dans ta sainte personne et j'y puise les trésors qui nous sont destinés. Encore un dernier texte avant le repas. Ce programme du pontificat du pape, vous voyez. Je suis chargé, alors c'est plus technique là maintenant, hein. Mais comprenez bien qu'attention, hein, ce que tu disais, attention, c'est pas de la technique, Hartung, c'est quelque chose pour comprendre. On verra d'ailleurs demain l'aspect plus d'efficacité, parce que c'est pas complètement éthérique cette histoire, c'est corporel. Et par conséquent, il va y avoir une action dans le monde. Et comme disait le père Dose l'autre jour, avant-hier, cette action ne vient pas du temple. Elle vient pas du temple. Il faut quitter le temple. Elle vient de Saint-Joseph, qui porte l'amour des trois cœurs unis dans la très sainte Trinité, pour que tout le monde angélique puisse participer. Elle vient au fond, donc, de quelque chose d'autre. Donc, je suis chargé, là, ne notez pas non plus, je vous le donnerai, vous inquiétez pas. Je suis chargé de radiation divine, et je vous les transmets. C'est la Vierge qui parle. Voyez bien, je vous ai lu exprès le texte de Mélanie à cause de ça, pour que vous preniez pas ça à l'envers, n'est-ce pas? Et je vous les transmets. Les cellules dont vous êtes fait, votre mémoire ontologique, voyez. Les cellules dont vous êtes fait, votre corps originel, sont faibles. Celle que je vous communique vous pénètre. Vous voyez, il y a un mariage entre la Vierge, voyez, et nous, qui est un mariage qui se fait corporellement, mais au niveau de la cellule. C'est dit explicitement. Les cellules dont vous êtes faites sont faibles. Celles que je vous communique vous pénètrent et détruisent la chétivité de ces cellules, et vous vous reconstruisez. Le processus est continuel. Votre prière est une matière immense. Voilà le premier des éléments. Qui recouvre presque toute la terre. Dès lors, voyez bien que dans la grâce, je vis avec l'Immaculé. Dans un mariage intercellulaire, je m'excuse, n'est-ce pas, de cette expression, et bien à ce moment-là, votre prière immense est à la mesure de Marie-Reine, qui, elle, est dans l'omniprésence en raison de son Assomption. C'est une matière immense qui recouvre presque toute la terre. Hein, une partie de la terre qu'elle ne recouvre pas, c'est précisément l'endroit où les hommes se sont associés aux puissances intermédiaires. Elle est constituée par une couche de neutrons. C'est symbolique, hein, neutrons ici, je crois. Et en même temps, c'est pas symbolique. Ah ouais, mais il faudra que je vous l'explique. Qui capte les sons, les refoule, les amplifie, les renvoie dans la seconde couche, qu'à son tour, qui à son tour les capte et les projette dans un lieu où se créent les formes pensées. Donc voyez bien, il y a donc quelque chose de la prière qui empare toute la terre, presque toute la terre, qui capte tous les sons de la terre. Bah, vous savez, c'est ce qu'on découvre en ce moment dans la physique. C'est que votre corps, là, bon, vous avez à peu près des centaines de milliers de cellules qui meurent hein, chaque seconde, mais qui sont renouvelées grâce à la division microcellulaire. Mais en même temps, ces cellules sont composées donc d'atomes, lesquels s'entourent autour de protons, neutrons, etc., des quarks, etc. Et, mais tous ces éléments de base de la matière, je crois quark par exemple, ne cessent de gesticuler. Et en réalité, la matière qui constitue votre corps, dans deux minutes de maintenant, il n'y a rien de ce qui est la matière qui constitue votre corps en ce moment qui n'y sera dans deux minutes. Rien. Tout ça, ça fout le camp, comprenez? Et l'union corporelle, grâce à l'efficacité du fruit des sacrements, parce que les sacrements nous apportent l'efficacité du corps du Christ par mode de substance. Et ceux qui ne vivent pas de sacrements, évidemment, n'auront jamais ça. Alors, ils vivront ça sur le plan métapsychique. Et voilà, ils se font... Ils se font bélager à tous les coups. Et c'est la gueule du dragon, il n'y a pas de doute. Bon, alors... Elle est constituée par une couche de neutrons. Vous comprenez, c'est à ce moment-là, c'est neutrons et qui traverse donc tout, etc., qui capte les sons et c'est ramené sur le plan du sacré cœur, bien sûr. Alors, et c'est renvoyé dans la seconde couche qui à son tour les capte. Tout ça est réfugié donc dans le feu qui brûle la résurrection du Christ, et c'est renvoyé dans ce lieu où se créent les formes pensées. À ce moment-là, effectivement, c'est redonné aux anges les formes pensées. Deuxième élément. Ensuite, elle s'amplifie encore avec eux. La belle blague. Et se présente devant le Créateur. Voilà, donc, troisième élément qui apparaît. Elles arrivent dans une forme, ça y est, voilà Dieu, compatible. La forme, c'est la très sainte Trinité dans l'unité, l'unité dans la très sainte Trinité, compatible avec la vie qui existe dans la vision béatifique et l'éternité du paradis. Selon la qualité de la prière, elle peut prendre des forces gigantesques. Alors, elle déploie autour d'elle un véritable faisceau de lumière qui la transporte presque instantanément vers le Créateur et se réalise aussitôt dans la demande pour laquelle elle a été faite. Prier, c'est vivre.
C'est beau.
C'est pourquoi tu feras cette prière. Que chaque cellule dont est fait mon corps soit reliée au feu qui brûle le cœur de Jésus dans la résurrection de mon Jésus, qu'en moi il trouve où verser ses grâces, car il y a très longtemps que je sais que je suis son dépôt. Je vous l'avais dit. On a compris, je suppose, le miracle des trois éléments. Le miracle des trois éléments pour faire une seule force d'amour. Et avec la petite parabole, n'est-ce pas, du radar ou du capteur, diffuseur, émetteur, récepteur, pour qu'il y ait un récepteur dans les... Je ne sais pas qui est-ce qui connaît un peu l'électronique, j'espère que vous connaissez au moins un tout petit peu, c'est que vous avez... Hein? Ah ben voilà, Louis, ben tout à fait. Il y a, il faut un émetteur qui émet des ondes, qui sont immatérielles, il faut un récepteur, et enfin il faut un diffuseur. Sinon, la transmission ne se fait pas. Et donc c'est la réunion de l'émission qui est d'ordre immatériel, enfin... Je prends la parabole, bien entendu, du récepteur qui est matériel et du diffuseur qui fait donc le miracle des trois éléments. Donc, vous sentez bien que, évidemment, c'est le capteur-récepteur qui est matériel. Et l'immatériel, c'est l'émetteur, et puis, c'est l'émission, et puis c'est la diffusion. Ah, c'est pareil pour les trois éléments, si vous voulez. Donc là, l'émetteur, c'est si je puis dire, c'est la forme, c'est le diffuseur, c'est la pensée, et le récepteur, le capteur, c'est la matière. Voilà. Donc vous avez tout compris. Ou si vous préférez, le capteur, c'est-à-dire c'est nous, quoi. C'est notre prière, notre manière de prier, et c'est ça qui va être le capteur, récepteur, et le monde angélique de Dieu, de ce que Dieu doit faire sur la terre, de ce que la divinité régnante veut faire sur la terre. C'est moi le capteur, c'est ma prière qui est le capteur. Et donc, la diffusion, c'est-à-dire la réalisation, se fait grâce à la possibilité que j'ai, parce que je sais bien actionner mes boutons du poste radio, n'est-ce pas? Je sais bien actionner mes boutons, alors, comme quand je sais bien actionner mes boutons et me mettre sur la bonne longueur d'onde, justement, alors à ce moment-là, voilà, le message passe partout et il se réalise quelque part, vous voyez? Ça, donc c'est il y a plusieurs exigences. Un, il faut trouver en nous ce qui correspond au premier élément. Donc il faut retrouver en nous ce qui dans la matière de notre être priant est relié directement à l'émission divine, à la centrale d'émission, c'est la très sainte Trinité, si vous voulez. Donc le seul endroit où corporellement, si je puis dire, je suis en contact direct avec la très sainte Trinité, c'est dans l'état dans lequel je serai quand je serai ressuscité. Donc c'est mon corps spirituel. Donc si tu ne trouves pas ton corps spirituel, autrement dit, si dans notre prière nous ne trouvons pas le processus qui permet, par la foi bien entendu, c'est un des pouvoirs que donne la foi ça. Si par la foi, quand je suis avec Jésus, avec l'Immaculé, dans la grâce de Dieu, de manière incarnée, en adorant, c'est-à-dire lié à mon corps d'origine, malgré mes péchés, c'est-à-dire lié à mon corps terrestre, lorsque je suis uni au Rédempteur, au feu qui brûle le cœur de Jésus de la résurrection, il faut que je comprenne que je suis lié à l'état dans lequel je serai lorsque je ressusciterai. Et pour là, quoi ? Dieu m'a créé et inscrit dans le livre de vie au premier instant de ma vie. Donc cette inscription sur le livre de vie, je la retrouve en anticipant l'état dans lequel je serai éternellement dans la résurrection. C'est une anticipation de la vision béatifique jusque dans mon corps. Bon, et le processus, c'est donc tout ce qu'on a regardé jusqu'à maintenant. Donc, c'est la première chose, première exigence, c'est établir le processus qui me permet de me trouver en face de mon corps spirituel, ou si vous préférez, dans le langage classique, on sait, eh ben, on anticipe le mystère de la résurrection. Puisque Jésus, puisque vous êtes baptisé, eh bien, vous êtes ressuscité avec le Christ. Donc, regardez, recherchez votre corps spirituel. Non, recherchez les choses d'en haut, les restes d'en haut, restes, les réalités d'en haut, c'est-à-dire réalités concrètes d'en haut. Le point de vue concret de la réalité, c'est votre corps spirituel. Recherchez les choses d'en haut. Quae sursum sunt sapite. N'est-ce pas ? Il faut les savourer, il faut découvrir l'état corporel qui est le nôtre éternellement et qui est conservé en Dieu, en attendant que je vienne à sa conquête, qu'il devienne parfaitement mien, et c'est ça la sainteté, pendant cette vie. Je cours vers la sainteté finale, qui est corporelle, nous le savons bien. Donc, on dit bien, vous êtes baptisé, donc il faut vivre de la résurrection. Alors souvent on dit, il faut vivre de la résurrection du Christ. Eh oui, mais il faut vivre de l'autre. C'est toi qui dois vivre de la résurrection aussi. Du Christ, certes, puisque c'est à travers le cœur, le feu qui brûle le cœur sacré, le cœur de Jésus dans la résurrection. Et tu es enfanté donc par l'Église. Tu es enfanté par la Jérusalem céleste. Tu es enfanté par l'Immaculée. Cette espèce de réunion de l'époux et de l'épouse, donc du Christ et de l'Église, du nouvel Adam et de la nouvelle Ève, la Jérusalem céleste et du Verbe de Dieu. De la duo de Dieu, qui, vous voyez, les trois mariages qui se font extraordinaires et qui fécondent chacun pour chacun d'entre nous notre être spirituel, corps, âme et esprit glorifié. Mais en attendant, notre âme est dans notre corps terrestre, notre esprit aussi, et donc il ne reste plus donc qu'à mettre en harmonie avec le corps ressuscité, que, n'est-ce pas, qui est dans l'éternité glorieuse, qui est dans le livre de vie. Donc j'anticipe l'heure de ma résurrection, je crois que c'est quand même quelque chose de plus simple. Si je ne fais pas ça, et nous avons été créés pour ça, si je suis éveillé intérieurement, mais pas mûr spirituellement, je vais chercher une espèce de corps spirituel. C'est ça le nouvel âge. Je vais chercher une espèce de corps spirituel, une espèce d'enveloppe de lumière. Je vais devenir templier. L'ordre du temple. L'acropole. C'est extraordinaire. Et toutes les initiations et tout ça. Et attention, et puis je vais utiliser les sacrements aussi, hein. Ça m'est égal. Tu peux utiliser les sacrements. Ça, c'est bien. C'est quand même extraordinaire cette espèce de tension qu'il y a entre les deux. Si je vis pas par la grâce, par Jésus réellement présent dans l'unité sponsale qu'il y a entre donc la Jérusalem céleste qui s'unit à l'agneau de Dieu, au Verbe. Le nouvel Adam avec la nouvelle Ève, le Christ et l'Église. Vous voyez, ces trois, c'est un petit peu la même chose. Ces trois sponsalités qui fécondent dans l'éternité le mystère de la résurrection. Pour moi. Alors ce processus est quand même drôlement important. Et si je ne le fais pas, je vous dis, il y a cette nostalgie. Cette fameuse nostalgie métaphysique dont on parle tout le temps, quand on fait de la métaphysique, on voit les nostalgies métaphysiques. La philosophie parle des nostalgies, l'angoisse métaphysique, etc. C'est très c'est le protestantisme. Laïcisé en philosophie parle toujours de l'angoisse métaphysique. Kierkegaard, par exemple. Mais c'est nous aussi, hein, Aristote, le MDP aussi. C'est un philosophe d'aujourd'hui. MDP, il parle aussi beaucoup de. Oui, c'est. S'il y a des bouquins, vous verrez, il y a marqué MD Philippe, oui. Et le. MDP, ils font une nostalgie. Mais on fera cette année, je crois, ça m'intéresse de faire ça, les nostalgies, de faire la métaphysique de la cellule, n'est-ce pas, la métaphysique de la première cellule, c'est-à-dire les nostalgies. Il faut reconnaître ça, et alors et c'est à partir de là. Bon, si je vis pas, si je ne découvre pas mon corps spirituel, si j'en vis pas, si la jonction ne se fait pas corporellement, comprenez, c'est ça. C'est-à-dire si la grâce, la présence de Jésus ne pénètre pas jusqu'au point de vue du corps, eh ben cette nostalgie métaphysique, elle va avoir à un moment donné, surtout. Au moment de l'urgence des temps, ce besoin du corps spirituel va se faire, et hop, on va évidemment donc, se précipiter donc, vers ces espèces de corps spirituels de substitution. Bon, le deuxième point important, c'est qu'une fois que j'ai découvert ce corps spirituel, et que je me suis mis, que j'anticipe par la foi, et ça fait partie de l'oraison, ça vous savez, et de l'union transformante. Dans l'union transformante, vous savez, c'est ça. Grâce à l'Immaculé, grâce à cette espèce de plénitude de grâce de l'Immaculé, je vis. Elle, au moins, elle se plonge dans ce cœur sacré de Jésus tout entière. Alors je dis, allez, bon, ben moi je lâche les baskets, je lâche prise, et vous me prenez, et hop, on se plonge dans le sacré cœur de Jésus, et puis c'est tout. Hein. C'est une prière qui est très très géniale quand on est crevé. Et quand vous n'êtes pas crevé, et que vous dites, ouais, je vais me consacrer au cœur immaculé de Marie, super, et puis hop, on rentre dans le sacré cœur, marche pas. Ouais, marche pas. Tandis que quand tu es complètement crevé, vidé, crucifié, broyé, etc., de toute façon je peux plus prier, alors tu te livres à l'immaculé, puis hop, dans un sacré cœur, et hop, tu aperçois que tu fais une heure d'oraison de quiétude, et tu touches le point de vue de l'union transformante. C'est la grâce qui opère. En dehors de la croix, est bien évident qu'il n'y a aucune chance que ça puisse, qu'en dehors de l'agneau de Dieu, si vous voulez, cette plaie qui brûle le cœur de Jésus. La résurrection, ça paraît très difficile. Une fois qu'on a enfin découvert son corps spirituel, et puis et qu'on habitue à anticiper, justement, l'état dans lequel je serai dans la résurrection. Et il est facile à trouver en raison précisément du fait que je l'ai touché déjà une fois physiquement. Je l'ai touché une fois physiquement dans ma première cellule. L'acte créateur de Dieu est un acte qui conjoint l'instant temporel et l'éternité vivante créatrice. Par conséquent, mon corps originel a été en contact physique avec mon corps spirituel. Et c'est justement quand Dieu se retire, il se retire avec cette marque dans le livre de vie qui constitue la prédestination. Mais vous voyez bien que ce n'est pas dans le temps, c'est dans l'éternité ça. Et c'est pourquoi c'est encore dans les cellules de mon corps, gardé corporellement par mon mort génétique, spiritualisé par l'âme. Il faut donc spiritualiser mon corps originel dans mon corps terrestre actuel et anticiper l'heure de la résurrection. À ce moment-là, je me retrouve face à mon... Et remarquez bien, ça c'est des mots, je suis tout à fait d'accord, mais je ne sais pas comment vous expliquer ça plus simplement. Moi, personnellement, comment est-ce que je ferai? Je dirais, bon ben voilà, voilà Seigneur, ben, je sais pas, par la foi, c'est-à-dire que vous avez la lumière surnaturelle de la foi, vous habitez dans le Christ, vous êtes en Jésus, et lui il est au ciel, et lui il crée, Il assiste à la création, c'est lui le créateur. Donc il crée le premier moment de la création de tout l'univers. Vous pouvez assister à l'instant de la création de tout l'univers. Vous pouvez assister par la foi, vous pouvez assister au retour de Jésus, à la résurrection de la chair. On assiste à tout ça. C'est ça le mystère du rosaire. Le rosaire, c'est quoi? C'est d'assister à l'annonciation avec elle. Et c'est contemplatif, c'est surnaturel. Et s'il n'y a pas cette contemplation surnaturelle, si je dis mon chapelet, eh ben, c'est comme si c'est ce que disait la Vierge dans je ne sais plus quelle sainte. Ben, si tu ne contemples pas surnaturellement les mystères, si tu ne me laisses pas contempler les mystères, si ils ne se réalisent pas à nouveau, si tu ne revis pas avec moi ce mystère-là, réellement, surnaturellement, exactement et concrètement, ben, c'est comme si ton chapelet, c'est comme un corps sans âme. Parce que, donc c'est comme si tu me présentais comme prière un cadavre. Un chapelet cadavre, c'est charmant. Et là, c'est la contemplation des mystères qui fait l'âme du chapelet, bien sûr, qui fait l'âme du rosaire, évidemment. Puisque par la foi, je viens habiter, je donne la permission. Non seulement je viens habiter l'Immaculée Conception au moment où elle a vécu ça, mais en même temps c'est par la foi, mais par la charité, je donne la permission à l'Immaculée Conception de venir en moi aujourd'hui et de recommencer cet acte. De la visite de l'ange, de l'incarnation, de la nativité à travers mon corps, comprenez, les deux. Donc vous voyez bien que le processus surnaturel de la vie théologale nous met à la fois dans le temps et dans tous les temps en même temps et dans l'éternité en même temps, les trois en même temps. Et tout ça c'est une espèce d'apprentissage, vous voyez là l'échelle de Jacob qui nous permet, où montent donc tous les anges d'en haut et d'en bas, c'est pas ça, pour qu'on puisse enfin comprendre qu'il faut anticiper. Donc vous pouvez très très bien, c'est facile de dire ben voilà, j'anticipe l'heure de ma résurrection, l'instant de la résurrection, je l'anticipe, voilà. Je crois en la résurrection. Quand je crois à la résurrection, je peux anticiper l'heure de ma résurrection, mon entrée au ciel, ma vision béatifique. Je peux parfaitement, si je ne le fais pas, je ne vis pas de l'espérance. La troisième vertu théologale. C'est vraiment ça, la nouvelle terre, vous voyez ? L'espérance. Tout se termine dans l'espérance. Comme pour les vieux, c'est pareil. Une vie humaine, c'est pareil. Vous savez, la foi qui apparaît chez le petit, la charité chez l'âge adulte, et le vieux, il perd tous ses moyens, il perd la volue, il perd ses forces, etc. Il n'y a plus pauvreté, nul, zéro. La foi, ta-ta-ta-ta. La charité, il ne peut plus poser des actes, etc. Et il ne lui reste plus que l'espérance. Parce qu'il est devenu très, très, très pauvre. Pour l'Église, donc vous avez la Bible du Père, l'Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ, et puis la Nouvelle Terre avec Marie, c'est l'ère du Saint-Esprit. Et c'est normal, donc on rentre dans cette nouvelle ère du Saint-Esprit, proclamée par le Saint-Père, quand il veut donc instituer et mettre en place le monde nouveau. Donc nous allons... Alors le deuxième point, c'est comment faire pour passer du capteur, n'est-ce pas, au diffuseur, n'est-ce pas. Et donc ça, c'est ce qu'on a vu hier, c'est le point de vue donc du rayonnement de toutes les sphères angéliques, étant entendu le mot sphère au sens de Saint-Denis l'Aréopagite, pardon. Qui est le bon, et puis Saint Thomas d'Aquin, parce qu'on parle toujours de sphères, de mouvements circulaires, de mouvements verticaux dans la théologie chrétienne des anges. Bon. Donc je ne veux pas trop rentrer là-dedans. Il faut simplement savoir qu'à partir du moment où je suis donc en train d'anticiper la résurrection, que je retouche à nouveau par la foi mon corps spirituel, que je me trouve face à lui, et que j'y habite par la grâce, par le Sacré Cœur de Jésus, voyez bien, puisqu'il est au ciel lui, et par l'Immaculée, si j'y habite, puisque c'est bien la grâce qui peut happer mon âme dans le lieu où se trouve Jésus ressuscité, happer mon âme dans cette espèce de vol d'amour de l'Esprit Saint, au ciel, je me mets en harmonie avec mon corps spirituel. Alors à ce moment-là, c'est mon ascension qui commence. C'est-à-dire mon corps terrestre commence à vivre de l'ascension et à se mettre en harmonie avec mon corps donc spirituel. Je commence donc déjà à habiter l'arbre de vie qui est dans l'éternité, n'est-ce pas? Où je suis déjà inscrit, greffé par la Créateur de Dieu. Et à partir du moment où je suis là, et bien, les anges qui sont dans la vision béatifique, c'est-à-dire qui sont les formes pensées, n'est-ce pas? Et ils sont bien dans la très sainte Trinité, contrairement aux autres anges qui sont en dehors de la très sainte Trinité. Ils sont liés à Dieu parce que ça c'est éternel. Pour eux, la création fait que l'ange est de toute façon lié à Dieu. Mais les anges déchus restent liés à Dieu de l'extérieur. C'est un lien d'ailleurs. Et puis voilà. Et les autres sont dans la très sainte Trinité. Donc, si de toute façon il y a une espèce de d'inscription dans la création de l'être humain qu'il doit mouvoir les éléments d'en haut et les éléments d'en bas, c'est-à-dire la création tout entière et le monde angélique et le monde divin, comme dit saint Hildegarde. Donc si je le fais pas dans mon corps spirituel, c'est-à-dire toujours pareil, n'est-ce pas, eh ben, qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, c'est que je serai donc dans mon corps soumis à l'influence et utilisé comme capteur par les anges déchus. Point à la ligne, n'est-ce pas? Par contre, une fois que je suis là-haut, que j'anticipe ma résurrection, que je retrouve mon corps spirituel, que mon corps terrestre donc commence à vivre ce mystère de l'ascension concrètement, en se mettant en harmonie avec son corps spirituel, alors à ce moment-là, mon corps spirituel, lui, il est capteur par rapport aux anges qui sont dans la très sainte Trinité, n'est-ce pas? Bon. Alors à ce moment-là, voilà, et il faut en prendre conscience qu'à ce moment-là, enfin, tous les anges peuvent utiliser. Le vecteur de la désagrégation du mal, c'est-à-dire la Jérusalem céleste. La Jérusalem céleste, c'est ce qui est composé de tous les corps des saints. C'est pour ça qu'il y a cette description si extraordinaire dans l'Apocalypse de la Jérusalem céleste. On se demande pourquoi il y a toutes ces portes, toutes ces pierres, toutes ces maisons, tous ces trucs, toutes ces tours, tous ces machins. On se dit, j'avais pas besoin de faire des trucs aussi. Mais si, justement, c'est la Jérusalem céleste qui est le vecteur de. Et les anges, donc, vont pouvoir puiser dans notre humanité. Voyez? Nouvelle, justement. Pour diffuser Dieu et donc écarter, désagréger le mal définitivement. Tel est donc le règne du Sacré-Cœur. Bon, alors. Donc, retenez au moins une chose, il faut anticiper l'heure de la résurrection, il faut anticiper notre entrée dans la vision béatifique corporellement. Alors, à ce moment-là, vous êtes récepteur de. Vous devenez récepteur de la centrale divine qui est la très sainte Trinité, dans la sagesse créatrice et son intention finale, c'est-à-dire la récapitulation glorieuse. Les anges s'emparent à ce moment-là. De cette force, de cette brûlure d'amour vivante, créatrice de Dieu, et s'engage le processus par lequel le Saint-Esprit passe de l'arbre de vie à la terre, de la terre à l'arbre de vie, et du Saint-Esprit au Sacré-Cœur, au feu qui brûle le cœur de la résurrection, dans notre corps qui est bien dans, ici sur la terre, et du Sacré-Cœur de Jésus au Saint-Esprit qui est entre le Père et le Fils, n'est-ce pas? Et là, c'est les anges qui le font, ce va-et-vient continuel. Et c'est ainsi que s'engage le processus du monde nouveau. Et vous voyez bien que c'est l'homme, le chrétien, les apôtres des derniers temps, qui sont donc le vecteur, si vous voulez, le gond, je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait appeler ça, le prêtre, quoi, c'est ça, le sacerdoce royal annoncé par Vatican II. Le sacerdoce, donc, la médiation royale, bien le Sacré-Cœur, Marie-Ré, royale, qui permet précisément donc qu'il y ait cette advenue du royaume de Dieu, donc cette descente de la Jérusalem, du ciel et de la terre, et donc la fameuse grande parousie, n'est-ce pas, qui déclare à Satan que c'est fini pour lui. Et c'est la manière concrète, entre guillemets, par laquelle l'Immaculée écrase la tête de Satan à jamais. Bon, tout ça, c'est de la grosse... c'est du credo élémentaire, ça. Tout ça, hein, c'est ce qu'on dit dans le credo. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps, mais j'aurais voulu vous lire, au moins vous signaler que si vous ne savez pas comment est votre corps spirituel, vous avez la somme de saint Thomas, il y a tout dans la somme de saint Thomas. Mais comme il y a 200 pages rien que sur le corps spirituel, alors je vous dis, c'est dans la somme théologique. C'est, attention, je vous signale que la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, a eu pitié des pauvres qui étaient ignorants. Alors il a fait plein d'ouvrages de théologie, de trucs culturels. Puis à la fin de sa vie, il s'est dit, bon, il faut que je fasse quelque chose pour les débutants, les gens nuls, quoi, les gens vraiment nuls. Et il a fait la somme de saint Thomas d'Aquin. Il a fait une somme, il a fait un résumé, si vous voulez, facile. Hein. Il a fait la somme. Et ça veut dire que c'est le caté, quoi, pour les gens idiots.
Alors il en aurait fallu encore un autre pour nous.
Hein ?
Un autre plus, c'est quoi
avec 50
pages. Oui. Alors, c'est très intéressant. Je vous assure que c'est vrai. Il a fait ça pour les débutants. Et l'Église considère que saint Thomas d'Aquin, c'est le docteur principal de l'Église. Donc ça veut dire que vous faites votre petit caté, vous allez à la messe, etc., vous devez vous former. C'est-à-dire, il faut commencer par former par le truc élémentaire. Et de préférence par le docteur principal de l'Église. N'allez pas prendre, Origène. Ou Tertullien. On s'en fout de Tertullien, vous voyez. Il faut prendre... Bon, vous pouvez prendre à la rigueur Saint-Jean Chrysostome en mon honneur, mais... parce qu'il fait des descriptions extraordinaires, mais on n'apprend rien avec lui, mais il fait des descriptions. Par exemple, quand il parle de l'avarice, c'est extraordinaire son sermon sur l'avarice. 2h30 son sermon sur l'avarice. Il décrit le démon de l'avarice, alors on voit les pustules, on voit les... Et puis il y a la montée, vous savez, parce que c'est un type qui parlait vachement bien. Alors c'est le démon de l'avarice, il décrit le démon de l'avarice. On se dit, mais il va s'arrêter ou pas, Dieu? Et puis en plus, il devait faire ça avec une voix incroyable. Oh, les gens, ils donnaient tout leur pognon à la cité de ville. À Saint-Jean-Chrysostome, c'est incroyable, incroyable, incroyable. Incroyable. Ça, c'est, il avait horreur de l'avarice. C'était vraiment le saint qui a lutté contre l'avarice. Mais saint Thomas d'Aquin, il a voulu parler de tout. Vous comprenez ? Bon. Est-ce que la résurrection aura lieu pendant la nuit ? Est-ce que la résurrection doit se faire soudainement ou bien progressivement ? Vous voyez ? Est-ce que la résurrection de tous les hommes aura leur reste pour point de départ ? Vous voyez, les cellules qui sont restées. Est-ce que les restes dont le corps humain sera reconstitué ont une inclination naturelle pour l'âme à laquelle elles se réunissent ? Ben oui, est-ce que les restes de notre corps, est-ce qu'ils ont une inclination naturelle vers l'âme à laquelle... Évidemment. À propos des conditions des hommes ressuscités, quelle sera leur condition ? Et d'abord, quelle sera leur identité ? Nous examinerons ce qui appartient communiquant, ce qui appartiendra à la fois aux bons et aux méchants, ce que tout le monde ressuscitera. Alors quelle sera la condition à la fois des uns et des autres? Qu'est-ce qui sera particulier au corps ressuscité de ceux qui sont bons, de ceux qui sont méchants? Voilà. Est-ce que leur corps ressuscitera numériquement absolument le même que celui qu'ils ont laissé? Est-ce que les hommes ressuscités seront identiquement, individuationnellement les mêmes? Parce que c'est le corps qui fait l'individuation. Et est-ce que les restes doivent se convertir dans les mêmes parties dans lesquelles elles se trouvaient auparavant? Ah oui, par exemple, si vous restez, si au moment de la résurrection, il ne restera plus que juste un bout d'ongle, et puis tous les autres vraiment ont disparu. Est-ce que le bout d'ongle, en effet, à partir duquel se fera la résurrection de votre chair, est-ce que ce sera justement l'ongle de la gloire? Il se pose vraiment des questions incroyables. Bon. Bon. Vous lisez tout simplement le livre d'Ézéchiel, et puis c'est tout. Vous voyez bien, dans le livre d'Ézéchiel, il prend les restes, et à partir des restes, il les respecte tels qu'ils sont, en leur redonnant une perfection nouvelle par la recréation du corps qu'il va ressusciter d'ailleurs. Et à partir de là, il complète ce qui manque au corps. Bon, vous rappelez. Et puis ensuite, il donne souffle de vie, il le relève. Donc, tout simplement, il disait le livre d'Ézéchiel, tout à fait. Bon. Pardon. L'abeille, c'est pareil. La cellule, elle est revivifiée. Elle est revivifiée. Vous voyez que je n'ai pas besoin d'un acte miraculeux pour revivifier la partie végétative d'une cellule. Est-ce que les cheveux et les ongles ressusciteront avec le corps humain? Est-ce que tous les... Mais c'est vachement important. Est-ce que les membres du corps humain ressusciteront? Est-ce que tous les membres, est-ce que tout ressuscitera de nos membres? Et ouais. Et ouais, est-ce qu'on aura un estomac? Un pancréas?
Alors, quelle est la réponse?
Non mais c'est pour vous montrer que vous voyez, il y a des trucs intéressants. Les intestins sont des membres, mais ils ne ressuscitent. Voilà. D'abord les mauvaises réponses, n'est-ce pas? Mais ils ressusciteront pas, on n'en aura pas besoin. En plus, ils ne peuvent pas ressusciter parce qu'ils renferment des immondices. Hein. Lorsqu'ils sont dans le cadavre, ils ne pourront donc pas ressusciter plein. Ils ne pourront pas ressusciter vide non plus, puisqu'il n'y a rien de vide dans la nature. Donc les intestins ne ressusciteront pas. Ça, c'est la réponse idiote. Bon.
À la bonne.
Le Christ dit bien qu'on sera comme des anges, donc les organes correspondant à la génération ne serviront plus. Or, il n'y a rien d'inutile dans la création, donc Dieu ne recréera pas le point de vue des membres correspondant à la génération. Réponse idiote. Le corps ressuscité. Le corps ressuscité pour recevoir sa récompense pour les actes que l'âme a opérés par son entremise. Et borne dans le royaume des cieux, etc. Bon. Hein? Bon, mais c'est le contraire qui se produira, car les autres membres appartiennent plus réellement à la nature humaine que les cheveux et les ongles. Or, les cheveux et les ongles seront restitués à l'homme à l'époque de la résurrection,
donc à plein plus forte raison les autres membres. Notre corps est créé à l'origine par Dieu dans l'intégrité. Et c'est ce corps originel qui est la marque donc de son inscription dans l'arbre de vie. C'est donc l'intégrité du corps qui sera glorifiée. Les œuvres de Dieu sont parfaites. Or, la résurrection est une œuvre de Dieu. Donc, l'homme recouvrera parfaitement tout son corps, parfaitement recomposé. Moi, saint Thomas d'Aquin, respondeo dicendum. Je réponds en disant et en expliquant, ainsi que le fait le philosophe lui-même. Donc, vous n'avez même pas besoin de la foi pour comprendre une question aussi incroyable. L'âme appartient au corps, non seulement comme étant la forme du corps et la finalité du corps, mais encore comme étant la cause efficiente du corps. Parce que l'âme spirituelle est dans le corps comme son image, ainsi que le dit Aristote, comme l'art à l'œuvre qui en est produite. Or, tout ce que l'on voit explicitement dans une œuvre artistique, tout cela est renfermé implicitement dans l'idéal de l'artiste. Évidemment. De même, tout ce qui apparaît dans les parties du corps se trouve toutes virtuellement et vitalement et implicitement dans l'âme. Donc, de même qu'une œuvre de l'art ne serait pas parfaite s'il lui manquait quelque chose que l'idéal renferme et que l'artiste a voulu réaliser, de même l'homme ne serait pas parfait si tout ce qu'il y a implicitement dans l'âme ne se montrait pas extérieurement dans le corps. Or, l'âme est la forme du corps, donc toutes les parties du corps, etc. Vous voyez ? Bon. Est-ce que tous les hommes ressusciteront au même âge ? Ah, vous voyez ? Ah, putain, ah, qu'est-ce que je suis moche, avant j'étais belle, hein, que j'avais 28 ans. Hein. Alors, maintenant je suis vieille, je suis moche, tout ça. Alors, je préfère mourir à... Vous comprenez, bien sûr. Mais puisque vous ressuscitez, notre corps pourra être à l'âge qui correspond à tous les actes d'amour surnaturel qu'il aura posé toute sa vie. L'amour ne s'arrêtera pas. Vous voyez bien Jésus qui apparaît petit enfant dans les bras de sa mère, aussi bien qu'adulte, aussi bien comprenez. Il n'y a pas d'âge. Hein. Enfin si, extraverbum, il n'y a pas d'âge. Intraverbum, c'est la plénitude de l'âge. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. C'est-à-dire l'âge du Christ. Oui, car l'homme ressuscitera dans la plus grande perfection de la nature humaine. Or, la nature humaine est dans un état plus parfait à l'âge juvénile qu'à l'âge sénile, et à l'âge donc juvénile qu'à l'âge embryonnaire. Donc, tous les hommes ressusciteront à cet âge. Oui, intraverbum, c'est sûr qu'on aura la plénitude de l'âge, mais extraverbum, on pourra être petit enfant, ça c'est sûr, on pourra revivre, mais simultanément, comprenez, intraverbum, c'est tout le problème de la gloire intraverbum et extraverbum, ça. Est-ce que tous les hommes ressusciteront avec la même taille ? La grandeur naturelle est une conséquence-réponse, est une conséquence de la nature de chaque individu. Or, les uns sont petits, les autres sont grands. Or, à la résurrection, la nature de l'individu sera la même. Mais cette grandeur n'est pas la même dans tous les hommes, donc ils ne ressusciteront pas tous avec la même taille. Et oui, on sera tous dans la même, ce sera vraiment nous. Mais il faut tout de même se rappeler que la nature humaine sera restaurée par la résurrection pour la gloire. Or, la grandeur de la gloire ou du châtiment ne sera pas la même pour tous, ni par conséquent la grandeur de la taille. Mais vous comprenez bien que si la taille est très grande ou très petite en raison d'une anomalie, elle ne correspond donc pas à la nature de l'individuation de cette personne-là. Donc elle retrouvera sa taille normale. Mais ce n'est pas parce qu'elle retrouvera sa taille normale qu'elle sera de la même taille que les autres. Dans la résurrection, dit saint Matthieu, il n'y aura ni femme ni époux. Par contre, cependant, la génération a pour but de réparer le défaut produit par la mort et de multiplier le genre humain. Et la nourriture a pour fin la réparation du corps humain et la croissance des individus. Or, après la résurrection, le genre humain comprendra toute la multitude des individus que Dieu a fixés d'avance, parce que la génération existera jusqu'alors. Alors, de même, chaque homme ressuscitera avec la grandeur convenable, la mort ne régnera plus, les déperditions n'auront plus lieu dans les parties du corps humain, donc les actes de la puissance générative et de la puissance nutritive seraient inutiles. Voici donc comment il faut comprendre l'état de nos corps concernant ces fonctions. Je réponds à cette question en disant que la résurrection ne sera pas nécessaire à l'homme pour sa perfection première qui consiste dans l'intégrité de tout ce qui appartient à sa nature, puisque l'homme peut y parvenir dans l'état de vie présente par l'action des causes naturelles. Bon, vous n'avez rien compris, c'est pas la peine de toute façon. Mais la nécessité de la résurrection se rapporte à l'acquisition de la perfection dernière, qui consiste à parvenir à la fin dernière. Donc ce n'est pas par rapport, il ne s'agit pas de retrouver notre corps originel, il s'agit de retrouver notre corps spirituel. Si vous préférez. Je crois que vous avez tout compris maintenant. C'est pourquoi les opérations naturelles qui se rapportent à la perfection première de la nature humaine, donc corps originel, soit pour la produire, soit pour la conserver, n'auront plus lieu à la résurrection, corps spirituel. Non plus que les actions de la vie animale dans l'homme, ni les actions de la nature dans les éléments, ni le mouvement du ciel. La terre qui tourne autour du soleil, etc. Et parce que les actions de manger, de boire, de dormir, d'engendrer sont des actions qui appartiennent à la vie animale, puisqu'elles ont pour but l'activité de la perfection première, donc corps originel, à la résurrection, elles n'auront plus lieu. Il faut donc répondre que cette activité de manger exercée par le Christ lorsqu'il ressuscita auprès de ses apôtres n'était absolument pas nécessaire. C'était pas nécessaire. Comme si, après la résurrection, on mangeait et on digérait. Mais ce fut une action de sa puissance pour prouver qu'il avait repris véritablement la nature humaine dont il s'était revêtu, tandis qu'il avait mangé et bu avec ses apôtres. Cette démonstration ne sera plus nécessaire à l'époque de la résurrection générale, puisque ce sera notoire pour tous. Aussi dit-on que le Christ a mangé comme par miséricorde, dans le même sens que... Bon, vous comprenez, c'est pour faire comprendre qu'il a mangé. Oui. La deuxième objection, c'était « La distinction des sexes a pour but la génération, de même que les organes qui sont au service de cette puissance nutritive sont destinés à l'action de manger. Or, l'homme ressuscitera avec tous ses organes, ça c'est ce qu'on avait vu avant, et donc ils ne seront pas inactifs. Ils exerceront donc les actes de la puissance générative et de la puissance nutritive. » Eh bien, ce n'est pas vrai. Ils auront les organes, mais ils seront utilisés non pas à la manière nutritive ou générative, mais à la manière donc glorieuse. Donc, il faut répondre à cette difficulté, que la différence des sexes et la diversité des membres serviront à réintégrer la perfection de la nature humaine, soit dans l'espèce, soit dans l'individu. Et ainsi, bien qu'ils soient privés de leurs opérations effectivement nutritives et génératives, il ne s'ensuit pas qu'ils seront inutiles. C'est pas parce qu'on mangera pas du pain, du blé et tout, que notre estomac sera inutile. Au contraire, notre estomac sera nourri.
Ben, je me rappelle la première fois que j'ai eu une apparition. C'était... Je vous l'ai déjà raconté. La première fois que j'ai eu une apparition, c'était à... J'étais en train d'adorer le Saint-Sacrement et tout ça. Et puis j'ai vu, un peu comme ce que je vous ai vu hier, là, de Mélanie de la Céleste, là, une espèce de lumière vivante, etc. Et puis former un fromage de gruyère, fabriqué avec de la grâce. Mais vraiment, c'était extraordinaire, vraiment. Oui, parce que j'étais en train de manger, d'adorer le Saint-Sacrement, donc c'est la nourriture. Hein. Or, il sait bien que... Ben oui, c'est ce que dit le livre de la sagesse, c'est que la manne qui me descendait du ciel, lorsqu'il s'approchait de ceux qui le mangeaient, eh bien, prenait le goût qui s'adaptait à leur meilleur... Oui. Alors là, c'était pareil. Bon, ce fromage, mais il fabriquait de la lumière. Par contre, il n'y avait pas. Bon, je vous affirme que mes organes salivaires ont fonctionné, mes organes digestifs ont fonctionné, tout a fonctionné. Ça, j'étais parfaitement rassasié. Et pourtant, je m'en suis pas nourri, car matériellement, parfaitement rassasié. Ça, c'est sûr. Ah, et puis bien. Hein. Sans grossir. Comprenez? Et donc on sera, c'est ce qu'on appelle la satiété. On sera comblé dans l'estomac, comblé dans les entrailles, comblé dans la signification spontanée du corps, comblé dans toute. Donc ce ne sera pas inutile. Nos corps seront impassibles. La condition des corps spirituels maintenant. C'est-à-dire des corps de ceux qui sont n'ont pas voulu s'effacer eux-mêmes du livre de vie. Corps spirituel. Voici les conditions des bienheureux après la résurrection. Impassibilité dans leur corps. Deuxièmement, subtilité dans leur corps. Troisièmement, agilité dans leur corps. Quatrièmement, clarté dans leur corps. Notre corps spirituel est dans la clarté. Il est fabriqué, un peu comme au fromage de gruyère, avec de la lumière, même si la matière y participe. C'est une matière spiritualisée. Il y a les particules, il y a les cellules, il y a la vie biologique, il y a les organes, mais c'est dans un état de clarté. Hein, c'est un peu ce que vous disiez pour les cheveux. Donc l'impassibilité, vous savez ce que c'est? Ça veut dire que notre corps spirituel est dans un état tel qu'il lui est impossible de souffrir. Si tu prends si Jésus t'apparaît avec son corps ressuscité, et il dit tu peux mettre sa main dans son côté, triturer la plaie, là, ça lui fait pas mal. Ben, essaye de faire ça sur l'hôpital à quelqu'un qui a une plaie qui est. Tu vas voir, il va bondir. Parce que Saint Thomas lui fait ça, tu vois. Il plonge sa main dans son côté pour atteindre la blessure du cœur, là. Mais il faut bien qu'il mette tout l'avant-bras. Pas de problème. C'est l'impassibilité.
Il l'a pas foncé. Il l'a pas mis.
Vraiment. Donc s'il l'a pas fait, la place est vide, alors fais-le. Bon, ça c'est bien donc, hein. Vous le savez, hein, je ne veux pas vous lire, sachez simplement, impassibilité. Transfiguration, clarté,
satiété, subtilité, agilité. Alors l'agilité, c'est tout simplement que je participe à l'omniprésence. Je ne peux pas être en deux endroits en même temps comme Dieu, mais je peux être de cet endroit-là à tous les autres endroits quand je veux, dans l'instant. Ça, c'est l'agilité. Mon corps est très agile. Non, parce que les anges, c'est leur action. C'est le terme de leur action qui a l'agilité. Tandis que nous, ce sera le corps. Ce sera nous. Oui. Quoi, les saints? Je ne comprends pas.
Les
qui sont sur la terre?
Non, là-haut.
Ah, les saints sont là. Ah, mais là-haut, ils sont... Oui. Oui. Ah ben oui, puisqu'ils sont dans... ils ont touché quelque chose de leur corps spirituel, peut-être, mais oui. Sûrement.
La subtilité, c'est quoi?
Ah, la subtilité. Je peux vous faire la subtilité. La subtilité, c'est un petit peu ce qui fait que Jésus passe à travers les portes de la résurrection sans l'abîmer. C'est un petit peu à cause de la subtilité que, à la nativité, son corps spirituel... Le corps de la Vierge est rendu subtil, glorieux, le corps de Jésus est rendu glorieux, c'est pourquoi il passe à travers le corps de Marie sans l'abîmer. C'est ça la subtilité. Mais je vais relire parce qu'il faut faire attention, ça ne veut pas dire qu'on peut habiter dans le corps de... Je vais pouvoir habiter dans le corps de Sainte-Claire, moi, une fois que je serai ressuscité. Moi, j'aime beaucoup Sainte-Claire, donc... C'est pas tout à fait ça. La subtilité. L'apôtre dit, le corps psychique, le corps humain est semé psychique, il ressuscitera corps spirituel, c'est-à-dire semblable à un esprit. Or, la subtilité d'un esprit est plus grande que toute subtilité corporelle, donc les corps glorieux seront très subtils. Ouais. Alors, or, plus les corps sont subtils, plus ils sont nobles. Et les corps glorieux sont très nobles, donc ils seront très subtils. Voici donc la réponse de notre foi. Le mot subtilité est emprunté à une vertu, c'est-à-dire une qualité intérieure, qui est la vertu de pénétrabilité. Ce qui fait dire à Aristote que ce qui est subtil est apte à remplir les parties et les parties des parties. Et de cellule à cellule, vous comprenez? Eh oui, parce que vous avez bien compris que je ne peux pas vivre une seule chair glorieuse, par exemple avec la Vierge Marie, par le point de vue de l'unité pensale. Mais je peux vivre une seule chair avec la Vierge Marie par le point de vue du corps originel. Au niveau des cellules, c'est possible. Au niveau du lieu où la spiritualité de l'âme anime mon corps. Donc au niveau fondamental, cellulaire, mais pas au niveau spontal. Donc c'est parti des parties. Or, un corps peut pénétrer dans un autre de deux manières, à raison de sa petite quantité, principalement, vous voyez, un petit proton passe ici, et puis il traverse. C'est trop petit par rapport à mon corps qui est grand. Exactement comme moi, je prends une fusée, je traverse le cosmos, sans problème. Une petite partie, un petit corps par rapport à un grand corps. En raison de sa petite quantité, voilà là. Donc je peux aussi traverser en raison du peu de matière qui compose un corps, c'est ainsi que les corps raréfiés, appelés corps subtils,
un gaz peut rencontrer un autre gaz.
Oui. Corps raréfié, probablement. Et bien, finalement, si c'est possible, le corps de l'homme ne le ressusciterait pas, puisque au ciel, il trouve la vision béatifique, donc il est déjà spiritualisé, donc il n'a pas besoin de la résurrection de sa chair. Vous comprenez? Donc, deuxièmement, troisièmement, parce que l'apôtre Saint Paul lui-même le comprenait ainsi, les corps qu'il appelle corps spirituels seraient, pour la même raison, nommés par lui corps animaux, puisqu'ils seraient transformés en âme. Mais ce qui est faux, évidemment. Et il y a d'autres hérétiques qui ont dit qu'à la résurrection, le corps sera conservé, mais qu'il aura une subtilité semblable à celle des corps raréfiés. Notre corps, il sera un petit peu comme un gaz. Notre corps sera tellement spiritualisé que ce sera comme un gaz. Allez, hop, je passe par la porte. Bah. Pourquoi ? Après tout. Ben oui. Vous n'avez peut-être pas pensé ça ? Ben oui, il sera, je pourrais, en fait, je peux traverser la porte, donc je serai comme un corps raréfié, je serai comme un gaz. Ce qui est évidemment faux, n'est-ce pas ? Ce qui est évidemment faux. Alors attendez, où est-ce que j'en étais ? Arrêtez de me troubler, arrêtez. De sorte qu'à la résurrection, les corps humains, après, d'après ce qu'a rapporté Saint Grégoire, seront semblables à de l'air ou à du vent. Mais cette opinion n'est pas soutenable non plus, puisque après sa résurrection, comme nous le voyons dans Saint-Luc, le Seigneur eut un corps palpable, je pouvais toucher. Et je pouvais même plonger ma main en son côté. Donc, bien que nous devions croire surtout que de ce corps qu'il est subtil. Il est donc palpable. S'il est palpable, c'est qu'il n'est pas du vent. J'ai même pas eu l'idée, moi, d'aller palper le fromage de gruyère. Je vous aurais dit, sinon, si c'était... Oui. D'ailleurs, le corps humain résistera avec ses os et sa chair, comme le fut le corps du Seigneur. Un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous voyez que j'en ai. Or, les os et la chair, ce n'est pas du vent. Évidemment. Vous voyez comme c'est facile, Saint Thomas ? Or, la nature de la chair et des os n'est pas susceptible de la susdite raréfaction gazeuse. Il faut donc assigner au corps glorieux un autre mode de subtilité que les trois modes que nous avons vus. C'est un quatrième mode. De sorte qu'on les appelle subtils en raison de leur complète et entière perfection. Cette totale, complète, entière perfection, certains pères de l'Église leur attribuent en raison de la cinquième essence, la quintessence, qui, à leur époque, dominera principalement sur les corps ressuscités, ce qui ne peut pas se faire. Ce qui ne peut pas se faire parce que... Attends, cette complète... Les uns l'attribuent, il ne dit pas que c'est vrai. Et justement, il dit que c'est pas ça non plus. C'est pas la quintessence. C'est pas la quintessence. Parce que Pierre Lombard l'a démontré, il ne peut rien venir de la quintessence pour la composition du corps. Et la quintessence, c'est le fameux corps subtil. Hein? Le truc médiumnique, c'est les fréquences métaphysiques, c'est ça la quintessence. Donc parce que supposé que cela eut lieu, on ne pourrait pas comprendre que cette quintessence dut dominer alors plus que maintenant sur la nature élémentaire, à moins d'admettre que les corps humains contiendront à cette époque une plus grande quantité de la nature céleste. Alors ça voudrait dire qu'il y a une dose différente dans la nature. Et or, c'est pas possible puisque la nature ressuscite intégrale. Voilà, etc., etc. Aussi, d'autres encore ont-ils déclaré que la fameuse complète et perfection et entière perfection des corps humains, près de laquelle ils obtiennent la subtilité, proviendra de la puissance de domination de l'âme glorifiée, qui est la forme du corps, sur le corps lui-même, et c'est en raison de cette domination absolue, complète et parfaite de l'âme spirituelle glorifiée sur le corps, que le corps glorieux sera appelé spirituel. C'est-à-dire totalement, parfaitement et complètement soumis à l'esprit. Cette suggestion du corps vis-à-vis de l'âme le rend participant à l'être de l'espèce humaine puisqu'il est soumis à l'âme comme la matière est soumise à la forme. Ensuite, le corps sera soumis pour les autres actes qui lui appartiennent en tant qu'elle lui communique le mouvement. Et ainsi, la première raison de la spiritualité dans le corps, lui vient de la subtilité. La ratio subtilitatis, la ratio spiritualitatis, la ratio, le concept, si vous voulez, de spirituel, quand il corps spirituel, quand il spirituel, je dis subtil. La première chose, c'est exactement comme si, quand quelque chose existe, la première chose que je dis, ratio entis, la raison d'être, c'est la substance. La première raison d'être, ratio entis, donc primum, primus ratio entis, substantia. Ratio entis. Quand je dis l'être, j'existe, la première chose qui est contenue et que je veux dire quand je parle d'être en tant qu'être, c'est son principe intérieur, c'est la substance. Si j'existe, c'est que je suis substantiellement présent. Or, pareil pour le vous voyez, ratio spiritualis, donc là, le concept quand je dis corps spirituel, eh bien, si je veux préciser intérieurement ce que spirituel veut dire quand je dis corps spirituel, eh bien, c'est subtilité. Subtilité, c'est l'esprit où la victoire de l'amour et de la gloire de Dieu et la présence de Dieu dans l'esprit est si fortement présente et elle va jusqu'à la substance du corps et le corps obéit totalement, complètement et parfaitement à cette unité substantielle. À ce moment-là, c'est ça la subtilité. Et ainsi, la première ratio spiritualitatis dans le corps lui vient de la subtilitas. Vous voyez, en français, ça ne rend pas du tout, parce que, vous voyez, en français, la première raison de la spiritualité dans le corps lui vient de la subtilité. On ne comprend pas du tout. Et ensuite, de l'agilité. Seulement en deuxième. Et les autres propriétés des corps glorieux. Et c'est pour cela que, d'après les saints docteurs de l'Église, répétant en cela les enseignements des apôtres, en parlant donc du concept de corps spirituel, et c'est pour cela que, d'après eux, lorsqu'ils parlent de spirituel concernant le corps, ils veulent désigner la subtilité. C'est pourquoi Saint Grégoire, par exemple, un des pères de l'Église du début, dit que le corps glorieux est appelé spirituel en raison du fruit de l'activité spirituelle de l'âme glorifiée par Dieu. Et par là devient évidente toutes les objections qui ont pour fondement la subtilité qui provient de la raréfaction. Ce n'est pas parce que la gloire de Dieu et la spiritualité de l'âme sont parfaitement aiguisées pour s'unir à toutes les parties de notre matière, de toutes nos cellules, de toutes nos particules, que du coup nos particules perdent de la consistance, parce que, au contraire, elles ont une consistance encore plus grande. Et il y a d'autres qui diraient, mais Dieu est tellement là que du coup, ton corps est dissous, et tu deviens un nuage. Et non, Dieu, la grâce ne détruit pas la nature, et encore moins la gloire, puisque la grâce est à la gloire, ce que nous sommes, enfin, la grâce est à la gloire. Ah, ça je ne pourrais pas dire. Ce que. Oui, la grâce est à la gloire, ce que Marie est au Saint-Esprit, par exemple. Tout de même, c'est pas pareil. Alors, si la grâce n'est pas la nature, a fortiori la gloire, vous comprenez? À raison de cette subtilité, un corps glorieux peut-il se trouver dans le même endroit avec un autre corps non glorieux? Par exemple, tu te balades, tu te mets dans une porte. Si donc Saint Curé d'Ars venait à mon aide, venait à mon secours, ou Saint Joseph, puisqu'il est ressuscité avec son corps, venait à mon secours, et puis c'est la porte qui vous renvoie, ah, tu es dans la porte. Est-ce que c'est possible, ça? Bon, la réponse, à votre avis? En supposant que deux corps occupent la même place, il n'y aura qu'un corps numériquement le même. Or, chaque corps ressuscite numériquement le même. Donc deux corps ne sont jamais à la même place. C'est tout simple. Il est certain qu'un corps glorieux, à raison de sa subtilité, pourra se trouver dans un même lieu avec un autre corps, à moins d'admettre que la subtilité ne retranche de ce corps ce qui l'empêche maintenant de se trouver en même temps avec un autre corps dans un même lieu. Or, il y en a qui disent que ce qui empêche un corps de se trouver dans ce même lieu qu'un autre corps, c'est sa corpulence qui fait qu'un corps remplit un lieu. Et que la qualité de la subtilité enlèvera justement au corps. Or, nous l'avons vu, on ne peut pas soutenir une opinion pareille, pour deux raisons. Parce que la corpulence que la qualité de la subtilité détruit est un défaut, consistant dans le dérèglement de la matière qui ne se trouve pas parfaitement sous sa forme. Bon, vous lirez, hein? Vous lirez. Est-ce qu'il peut arriver par miracle que deux corps existent dans un même lieu? Alors, donc, habituellement, non. Habituellement, extra-verbum, j'y resterai la pince. Je vais tirer la pince, puis j'entendrai dans mon oreille, etc. Tout ce que tu me diras et tout. Tu vois, ce sera extraordinaire. Parce que tu vivras dans la vision béatifique qu'une gloire que tu auras la seule à vivre. Et qui n'a rien à voir avec la gloire et la jubilation que j'en aurai moi pour moi, en ce qui me concerne. Donc tu vas me communiquer la gloire que tu en auras avec toutes les saveurs et subtilités. De manière à donc me le communiquer, je le découvrirai, et du coup ma charité grandira encore plus, ainsi que ma... etc. La communication se fera extra-verbum. Et en même temps, donc la charité fraternelle se fera extra-verbum, et intra-verbum, on sera dans la lumière de la vision. Lumen gloriae. Donc il faut bien qu'on soit pas dans le même lieu corporellement. Sinon, on peut pas communiquer dans la charité extra-verbum. Donc c'est une... Mais miraculeusement, bien sûr, je peux traverser miraculeusement avec mon corps à la porte, vous savez bien. Bon. Est-ce que la subtilité du corps glorieux, l'exemple de la nécessité d'exister dans un lieu qui lui soit égal? Bon, je laisse passer. Est-ce qu'un corps glorieux est impalpable à raison de sa subtilité? Eh non, il est palpable. Non, retenez, laissez tomber toutes ces... parce que c'est normal, parce qu'il y avait plein d'imagination sur le corps glorieux, le corps agile.
C'est très
bon. Rappelez-vous toujours les cinq qualités des corps glorieux. Agilité, donc. Ça veut dire qu'on habite, on est en lien en tant que récepteur, capteur, diffuseur, relation... avec tous les autres corps, tous les autres lieux, tous les autres, et peut-être aussi tous les autres temps, et tous les instants. C'est en raison précisément de la nature surnaturelle, de la grâce et de la gloire de Dieu, que nous pouvons être portés corporellement en tous ces lieux, en tous ces temps. Ça va ? Agilité. Satiété, ça veut dire que le corps, dans toutes les moindres fondamentales parties, c'est-à-dire la cellule, les particules qu'il compose, etc., éclate, si je peux vous dire, comme un petit peu comme, une planète morte, comme la Terre et le Soleil. Le Soleil éclate sous le feu, si vous voulez, voyez. Et, bon... Donc, les moindres de parties de notre corps sont entièrement comblées de l'amour, éclatent, voyez, par la spiritualisation de l'âme, elle est parfaite, c'est ça. Alors, chaque partie de notre corps est donc subtile. C'est le corps tout entier rendu subtil par le fait même. Il est donc en même temps comblé. Il n'y a pas besoin de rajouter quelque chose pour flamber davantage. C'est pour ça qu'on n'aura pas extra-verbum, on pourra manger du fromage de gruyère, évidemment. Mais à la manière dont je vous l'ai dit. Donc, voilà pour la société. Du coup, quand on est complètement, complètement, complètement dans une société absolue, il n'y a plus de place pour rien du tout d'autre. Et donc, la souffrance non plus ne peut pas pénétrer ni le mal, ni la maladie, ni la mort. Voilà pour l'impassibilité. Et il manque quoi ? Ah ben, la clarté, c'est l'évidence même. C'est même pas la peine d'en parler. Bon. Donc sachez simplement que quand vous anticipez et la découverte de votre corps spirituel par la foi, donc dans l'entrée dans la vision béatifique, vous vivez la résurrection, eh bien c'est ce corps-là que vous touchez, que vous découvrez, avec lequel vous déjà vous rend la Vierge, le cœur de Jésus et Jésus ressuscité vous font déjà rentrer maintenant par la foi, par la grâce, par leur gloire. Donc il y a trois choses, il y a trois causes efficientes pour la découverte du corps spirituel et l'intégration dans le corps spirituel. C'est de votre côté la foi, du côté donc de la Vierge Marie, de ceux qui sont déjà au ciel, la grâce qui vous emporte, et du côté du Christ, cœur sacré de Jésus, sa gloire. Voilà les trois causes efficientes qui s'unissent pour faire que toute votre âme remplie de grâce, brûlée par ceux qui brûlent le cœur de Jésus dans la résurrection, est en contact et découvre votre corps spirituel. Et ça y est, vous avez déjà ces cinq modalités qui commencent déjà à vibrer dans la pointe de votre spiritualité, de votre âme, en contact avec la matière de votre corps. Ça y est. Et l'aspect opaque de votre corps s'harmonise avec ce corps spirituel. C'est l'enfance de l'art, ça, de comprendre ça. Bon. Bon, je vous lis, j'explique difficilement. Je vais vous lire quelques petits passages d'une petite paysanne.
Que j'aime beaucoup.
D'une petite paysanne qui explique comment elle comprend les choses, vous voyez.
Ah, voilà.
Parce que c'est bien de savoir comment une petite paysanne, enfin, toute simple, comprend les choses. Parce que ces choses sont simples aux intelligents et aux savants, mais aux petits, aux pauvres, quoi, c'est révélé, s'il vous plaît. Alors, donc, on va voir ça. Je rappelle, puisque je vois qu'il y a quand même deux, trois visages nouveaux aujourd'hui, donc je rappelle une petite formule pour le processus, l'ensemble du processus. Il faut devenir tout petit et tout pauvre. Devenant tout petit et tout pauvre, je pénètre dans la petite lumière qui s'appelle l'âme. Je pénètre dans la petite lumière qui s'appelle l'âme, et cette petite lumière me permet, jour après jour, de la voir elle-même s'agrandir. C'est cette lumière qui s'agrandit. Et de s'étendre et mon corps terrestre finalement prend de moins en moins de place, et mon âme finalement dans cette espèce de lumière spirituelle qui la prend de plus en plus de place, vous voyez. Donc, qui me permet jour après jour de l'agrandir et de s'étendre. Alors, elle prend de plus en plus de place. Et puis, elle s'étend jusqu'au fameux cercle lumineux que je vous ai décrit hier avec l'apparition de Mélanie de la Salette, vous voyez. Et mon âme s'étend jusqu'au cercle lumineux, vous voyez, de cette espèce de rayonnement de l'âme, par où elle peut s'accrocher justement à l'enveloppement de la grâce. Donc de s'étendre jusqu'au cercle lumineux qui la relie à Jésus et à Marie. Et Jésus et Marie font de
et Jésus et Marie font de tous ceux qui vivent cela des êtres surnaturels. Ça, c'est la grâce, si vous voulez. Donc, mon âme s'agrandit jusqu'à vivre, s'élargir aux dimensions de la grâce, au contact de Jésus et de Marie dans le cercle lumineux, dans la présence lumineuse de Jésus et de Marie. Vous êtes coincé, si vous voulez, entre la présence de l'Immaculé et puis du cœur de Jésus, du Sacré-Cœur de Jésus. Et alors, à ce moment-là, vous êtes un être surnaturalisé par la grâce. Jusqu'au cercle lumineux qui la relie à Jésus et Marie, et à Marie, et qui font de tous les êtres, des êtres qui vivent cela, des êtres surnaturels, car ils ont su, par leur amour, pénétrer dans votre intimité spirituelle. Car, ouvrez les guillemets, enfin, je vais faire comme le puisque je vois que vous notez, car, donc, qui ont fait de tous les êtres qui vivent cela des êtres surnaturels, virgule, car, ouvrez les guillemets, deux points, ouvrez les guillemets, ces êtres qui vivent cela, et qui sont devenus des êtres surnaturels, car ils ont su, par leur amour, pénétrer dans votre intimité spirituelle, ô divine personne de la très sainte Trinité, point d'exclamation, fermez les guillemets, point à la ligne. Car ils ont su, par leur amour, pénétrer dans votre intimité spirituelle. Ô divine, au pluriel, personne, au pluriel, de la très sainte Trinité, point d'exclamation, fermez les guillemets, point à la ligne. Non, mais c'est le processus que vous le notez, mais c'est idiot, je vous l'ai répété des milliers de fois.
Il y a des jeunes qui sont là.
Ah oui, ça se reconnaît que ils sont à la plénitude de l'âge, alors. Voilà, autre chose qui va un petit peu se rapprocher de, parce que je voudrais quand même qu'on arrive à un moment à cette charte pour la désagrégation du mal un jour, mais pas aujourd'hui, malheureusement, je ne sais pas quand. La prière que je donne à mes enfants est celle-ci. Alors, j'aime bien que vous notiez cette prière parce qu'elle est toute simple et enfin, vous pouvez vous en inventer une semblable si vous voulez, hein. Si vous voulez, du moment que vous respectez donc les mots de l'Écriture, les mots de l'Église, les mots du mis en place, institué par le Saint-Père, tout ça. Ça veut dire, pas les mots extérieurs, mais l'intériorité de ces mots, n'est-ce pas? On est donc d'accord. Par le feu qui brûle le cœur sacré de Jésus. Oh, par le S qui brûle le SC de J. Ah, faites-le, mais oui, quand même. Hein. Vous n'avez pas noté tous les. Par le feu qui brûle le sacré cœur de Jésus et le divin cœur de Marie. Et le décès de M. Tout. Ben oui, prenez des c'est facile, quoi. Tout le mal qui s'approche de moi, oui, vous êtes capteur. Tout le mal qui s'approche de moi, c'est un résumé de la prière de Saint Patrick, incroyable. Tout le mal qui s'approche de moi disparaît de cette terre. Vous le dites, et ça se fait. C'est extraordinaire. Vous mettez donc corporellement, spirituellement, gracieusement, en présence de Jésus, de Marie, du feu qui brûle le cœur de la résurrection, vous appelez tout le mal de la terre sur vous, attirez, parce que Dieu attire tout à lui, tout le mal vient sur moi et il disparaît de cette terre. Ça, c'est une prière très très
La prière que je donne à mes enfants est celle-ci. Par le feu qui brûle le cœur de sacré de Jésus et le divin cœur de Marie, tout le mal qui s'approche de moi disparaît de cette terre. Point d'exclamation. Deux fois, fermez les guillemets, c'est fini. Alors, ne notez pas parce que sinon on s'en sort plus. Et vous inquiétez pas, je vous ai dit que je vous ferai un papier. Préparez-vous dans le silence. Le recueillement, c'est la même chose, petit et pauvre, découvrez la petite lumière, élargissez-la, etc. Eh bien, préparez-vous dans le silence, le recueillement, la prière, et donnez à votre corps la dimension, retenez bien ce mot, dimension, qu'il avait reçue à son origine. Deux points, quelle dimension avait-il à son origine? Il avait la dimension de l'immensité de son âme, puisque son âme était élargie à la vitalité de la présence, vitalité éternelle du Créateur. Notre âme avait cette dimension. Et donc, voyez bien, dans notre petit corps pauvre et petit, il faut retrouver dans notre âme la dimension que le corps avait reçue à son origine, l'immensité de son âme. Vous voyez, c'est extraordinaire comme formule pour montrer ce que représente l'agilité du corps spirituel. Vous voyez, préparez-vous dans le silence, le recueillement, la prière, et donnez à votre corps la dimension qu'il avait reçue à son origine, de point, l'immensité de son âme. Plus vous la grandirez, plus vous repousserez le néant, et donc le mal. Et maintenant, agissez, mes enfants. Le Saint-Esprit a été chargé de terminer ce que Dieu le Fils avait commencé. Je vous l'ai déjà dit ça, mais je vous le redis. C'est-à-dire permettre à aux enfants adoptifs du Père de retrouver dès cette terre le corps spirituel qui va se fondre dans l'humanité. C'est-à-dire notre humanité va être en harmonie, doit se mettre en harmonie avec l'état que veut Dieu le Père. Il veut des adorateurs en esprit et en vérité. Esprit, vérité, c'est incarné. Et esprit, c'est spirituel. Donc corps spirituel, si vous voulez. Vous voyez ? C'est en même temps l'Esprit Saint et le Verbe incarné. Et l'Esprit Saint, concrètement, c'est l'Immaculé totalement englouti et reçu en moi. Et le Verbe incarné, c'est le feu qui brûle le cœur de Jésus dans la résurrection. Je commence donc par là pour vivre du Verbe et de l'Esprit Saint, qui s'unissent dans mon corps spirituel. À ce moment-là, mon corps spirituel, brûlé par ce que fait le Verbe, ce que fait l'Esprit Saint, lorsqu'ils s'unissent dans mon corps spirituel et qu'ils vont vers le Père. C'est comme ça qu'on adore en esprit en vérité. Donc c'est en force de l'art de comprendre ça. Alors, donc il a chargé l'Esprit Saint de terminer ce que Dieu le Fils avait commencé, c'est-à-dire retrouver dès cette terre le corps spirituel qui va se liquéfier dans l'humanité et vivre en harmonie parfaite avec lui dès cette terre. Ce n'est pas réservé à la résurrection, ce qui est bien évident. Ça, c'est des passages de Saint Paul très importants à se rappeler, ça. Seuls en seront dignes ceux qui auront aboli dans leur cœur la haine, je vous l'ai déjà dit, l'envie, l'orgueil, la calomnie, l'ambition, la jalousie et l'incroyance. Alors ils se revêtiront des sept dons du Saint-Esprit. Parce qu'en effet, quand dans le corps spirituel, le Verbe de Dieu et l'Esprit Saint se rejoignent, c'est là que brûlent les sept dons du Saint-Esprit. Donc que personne ne dise « je vis des sept dons du Saint-Esprit qui est la vie normale du chrétien ». S'il n'anticipe pas l'heure de sa résurrection dans son corps. C'est pas vrai. Non, je sais pas, si j'avais eu un tableau, je vous aurais mis des choses, mais... Oui, parce que vous voyez bien... Une fois que vous êtes là, que vous anticipez l'heure de la résurrection, vous êtes ce que vous êtes dans l'instant terrestre dans lequel nous sommes. Vous vivez ce que vous êtes dans l'instant éternel qui existe aussi de votre corps spirituel. Bon,
Alors à ce moment-là, vous êtes, comme je vous l'ai expliqué, un capteur. Vous êtes capteur de votre humanité, premièrement. Et vous transmettez à vous-même, parce que vous êtes des saints. Comme dit le psaume, vous êtes des saints, dit le Seigneur. Soyez saints, puisque je suis moi-même saint. Soyez ce que vous êtes, comme dit, je ne sais plus, Saint-Augustin. Soyez ce que vous êtes, Saint-Jérôme. Alors, à ce moment-là, oui, je reçois tout ce que me transmet mon humanité. Vous comprenez? Tout le mal qui se fait dans le monde, tous les besoins du monde, toutes les gens qui ont mal, etc. Tous les gens qui ont soif de Dieu. Mais moi, je ne sais pas leur dire. Donc, je transmets ça. Et moi, en tant... c'est mon corps. Et là, à ce moment-là, je deviens donc récepteur. Je suis dans mon horoscope. Je deviens donc... oui, c'est ça. Je capte ce qui vient de cette terre. Et en même temps, je suis récepteur de la très sainte Trinité dans mon corps spirituel. Et c'est cette rencontre des deux dans mon corps spirituel que l'ange peut, que les, tous les anges, selon les neuf modalités où l'activité angélique peut opérer, vont intervenir. Ils vont s'emparer de tout ce que Dieu me donne, dont je suis récepteur, notamment la rencontre du Verbe de Dieu et de l'Esprit Saint. Dans la présence corporelle du Père, vous voyez, où est la très sainte Trinité, il faudrait un tableau, ça je reconnais. Mais... Alors à ce moment-là, ça y est, les anges qui sont au service, créés au service de Dieu, et en même temps comme gardiens de la création pour aller jusqu'à la glorification, peuvent enfin se saisir de toute la puissance d'amour de la très sainte Trinité intime, la spiritualité intime du diaphane intérieur des trois personnes divines, dans notre corps spirituel. Mais unis donc à tous ceux qui ont soif de Dieu et s'emparent de ça pour réaliser le processus. Voyez, dans tous les lieux et avec la puissance qui est la leur, c'est-à-dire une puissance spirituelle et de l'intérieur, comprenez? Bon, rappelez-vous simplement que dans la très sainte Trinité, si vous supprimez le point de vue des corps, le point de vue de la création, le Père et le Fils sont deux personnes. Le Fils est à l'intérieur du Père et il émane dans le Père comme Fils. Il procède du Père. Et ces deux personnes qui se rejoignent dans l'amour pour qu'il n'y ait plus qu'une seule union d'amour, d'où, vous voyez, plus ni Père ni Fils, mais l'Esprit Saint. L'Esprit Saint procède du Père et du Fils. La chartreuse bleue, la lérinoise jaune, et ça donne une patricienne verte. Extraordinaire. C'est la meilleure liqueur du monde. Enfin, l'unité spontanée du Père et du Fils dans l'Esprit Saint. Donc, c'est l'unité du Père et du Fils, l'unité de l'époux et de l'épouse qui donne l'aspiration de l'Esprit Saint. Bon. Et je vous ai dit combien de fois que voulait dire Marie à Lourdes lorsqu'elle dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Ce que Père Maximilien Kolb disait, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut que pas dire « Tu es né sans le péché originel ». Et quand son corps est cadavérique, quand son corps s'est ouvert, vous le savez bien, je vous l'ai dit combien de fois, c'est ce que dit, proclame l'Église dans le mystère de l'Immaculée Conception. C'est ce qu'explique le docteur de la Charité, Saint Maximilien Marie Kolb, sur l'Immaculée, vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé là? C'est que d'un seul coup, le Verbe de Dieu, Dieu créateur en personne, dans ce corps, s'est réfugié là. Et sa donation d'amour se fait sous un mode qui est substantiellement passif grâce à son corps. Notre corps spirituel est dans un état substantiellement passif actuellement. Notre corps terrestre est dans un état actif. Bon. Mais le Verbe de Dieu, l'épouse, comme quand vous êtes deux à vous aimez activement, vous donnez activement, vous accueillez activement l'autre. Hein. C'est l'échange du don et de l'accueil, tout ça c'est actif. Hein. Ok. Donc la très sainte Trinité, le Verbe de Dieu, deuxième personne de la très sainte Trinité, vient d'amour actif absolu, substantiel, incréé, éternel. Voilà. Mais dans le cœur de Jésus, dans le corps mort de Jésus, il continue à se donner, mais à travers un mode passif, puisque le corps de Jésus est dans un état substantiellement passif. Il donne à travers un corps son amour, le don de sa propre personne, est devenu passivité substantielle d'amour. Donc, il vit l'amour de la même manière que la troisième personne de la très sainte Trinité, l'Esprit Saint, qui lui, c'est le Père et le Fils qui se rejoignent, et ils se donnent mutuellement, leurs dons sont absolus, et voilà. Et qui est-ce qui est cette, qui ne peut jamais se donner activement, c'est l'Esprit Saint, puisqu'il est le don du Père et du Fils, il procède du Père et du Fils. La passivité substantielle d'amour dans la très sainte Trinité, c'est l'Esprit Saint. Mais vous comprenez bien que dans le corps mort de Jésus, la passivité d'amour de Dieu, de manière incréée, absolue et parfaite, elle appartient au Verbe à travers ce corps. Et du coup, il rejoint l'Esprit Saint. La conjonction, donc, de ces deux personnes de la très sainte Trinité dans une passivité substantielle d'amour ne se fait qu'à travers le corps. C'est ça, vivre de l'Immaculée Conception. Parce que le fruit de cette rencontre, c'est l'Immaculée Conception. De même que l'Esprit Saint, c'est le fruit de la rencontre du Père et du Fils, de même l'Immaculée Conception, c'est le fruit de la rencontre de l'Esprit Saint et du Verbe de Dieu, de deux personnes divines, mais dans le corps, cette fois-ci, substantiellement passif du Christ. Ceci est extrêmement important, parce que vous comprenez bien que c'est à cause de ça que c'est notre corps qui va être récepteur de la centrale, fameuse centrale divine, n'est-ce pas ? La très sainte Trinité. Notre corps spirituel. Mais puisque là, je vis de la présence du Père dans mon corps originel. C'est mon corps originel qui me met aux dimensions par la grâce de mon corps spirituel. Et la présence créatrice du Père. Et je vis en même temps d'Immaculée Conception. Voyez ? Je vis en même temps du Verbe de Dieu qui se donne à travers un corps de manière passive et qui rejoint l'Esprit Saint qui actue toute la sponsalité de la Vierge dans l'Assomption avec le Christ. Donc finalement, quelque part, je retrouve la très sainte Trinité sous un mode créé propre à la créature, et c'est pourquoi la création ne peut être atteinte efficacement par la très sainte Trinité que sous le mode du corps spirituel. Et les anges ne peuvent pas intervenir. Et une fois donc que je suis là, je m'offre en victime d'amour, je m'offre en apôtre du monde nouveau, je m'offre à Dieu dans le feu fulgurant de la résurrection. Je m'offre à tout le monde angélique pour qu'il puisse enfin utiliser tout ce que Dieu a donné pour désagréger le mal. Et il faut que se fasse le miracle des trois éléments, là, n'est-ce pas ? C'est ça qu'il faut comprendre, pourquoi c'est nécessaire. C'est à cause du mystère de l'Immaculée Conception, c'est à cause, si vous voulez, de la conjonction du Verbe de Dieu et de l'Esprit Saint, qui ne peuvent se faire que dans le corps, puisque en dehors du corps, l'Esprit Saint et le Verbe de Dieu ne se rejoignent pas. Le Verbe rejoint le Père. Tandis que dans le corps spirituel, et premièrement dans le corps ressuscité du Christ, le Verbe de Dieu se repose, et l'Esprit Saint aussi se repose. Et c'est cette conjonction des deux amours substantiellement donnés, passivement incréés, qui produit ce mystère de la grâce, de l'Immaculée Conception dans la création. Le mode, donc, est différent. Et du coup, la très sainte Trinité n'est plus incréée, seulement incréée et glorieuse en elle-même, mais elle devient aussi, j'allais dire, diffusion et glorification. Et qui dit diffusion, glorification, dit que c'est à travers le corps. Il faut donc bien que ce soit bien. Donc le corps a quelque chose dans la sagesse créatrice de Dieu, un rôle nécessaire. Il aurait pu faire autrement, mais il a voulu que notre corps spirituel joue un rôle tout à fait essentiel, central. Bon. Et il n'y a que le mystère de l'Immaculée Conception qui peut nous faire comprendre ça. C'est pour ça que quelqu'un qui refuse le mystère de l'Immaculée Conception, il refuse le retour du Christ. Forcément. Puisqu'il en refuse le mode. Dans mon corps spirituel se trouve la station réceptrice et maîtrise formée par tous les anges et toutes les lumières de gloire qui vont relayer tous les ordres du ciel qu'ils trouvent dans notre corps spirituel et qu'ils transforment pour que, à notre tour, nous puissions en voir l'efficacité. Ce qu'elle voulait dire ici, et je vais vous le dire parce que je m'en rappelle, dans le ciel, les archanges, les anges, les principautés, les dominations sont là, et ils sont, j'allais dire, à l'intérieur donc de la très sainte Trinité, et en même temps, ils sont l'enveloppe de chacun des attributs de la très sainte Trinité. Saint-Michel Archange. Saint-Michel Archange, c'est un ange qui est comme l'enveloppe de la victoire de l'amour du Père et du Fils dans l'Esprit-Saint surtout. C'est une espèce d'enveloppe, je ne sais pas si c'est très difficile, puisque cette espèce d'activité brûlante de la gloire de Dieu, ce feu qui incendie tout le diaphane intérieur de la très sainte Trinité, qu'on appelle la gloire du Père et du Fils dans l'Esprit-Saint, elle est portée par un être créé par Dieu, c'est Saint-Michel Archange. Et tous les ans, chacun va porter quelque chose, vous voyez bien. Et donc tous les anges portent quelque chose qui est un attribut essentiel de Dieu. Par exemple, il va y avoir la miséricorde. Il y aura l'ange de la miséricorde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un ange qui enveloppe toutes les miséricordes que Dieu fait. Il y a un ange qui porte les paroles, la dernière parole du Verbe de Dieu. C'est extraordinaire, ça. C'est une parole vivante, c'est une parole personnelle, c'est une parole créatrice, une parole finale, une parole... Il y a tous les anges, vous comprenez, c'est les anges qui sont comme la création de ce que Dieu vit dans l'incréation, vous voyez bien, mais sous un aspect particulier. Il n'y a pas un ange pareil qu'un autre. Alors tous ces anges, ben, ils forment quelque part une espèce de centrale de gloire, centrale de Dieu, centrale de la très sainte Trinité, extraordinaire, vous comprenez? Ils sont dans la très sainte Trinité. Alors cette petite paysanne, elle dit centrale divine, mais vous comprenez, c'est ça que ça veut dire. C'est exactement, c'est tout à fait exactement ce que toute la conception de l'Église apostolique sur le monde angélique, ça c'est sûr. Vous comprenez? Il y a quelque chose, tous les attributs divins sont portés à la... C'est une espèce de centrale divine extraordinaire. En fait, c'est la très sainte Trinité qui est là. Mais dans ses attributs, vivants, ah, ce serait génial si on pouvait... Mais c'est possible, hein, attention, c'est pas normal, c'est pas tout à fait normal qu'on ne puisse pas, que nous les chrétiens n'ayons plus, parce que cette espèce de connaissance claire des anges, parce qu'on n'a pas rencontré, mais il faut les rencontrer, il faut supplier le bon Dieu de nous aider à les rencontrer, et qu'on puisse voir, qu'on puisse être sous leur rayonnement, être dans cette centrale divine de notre ange gardien. Notre ange gardien, on se met dans la centrale divine de résurrection du printemps. L'ange qui porte la création du monde nouveau et l'origine de la Jérusalem céleste, c'est-à-dire enfin quand la très sainte Trinité s'empare des corps. Selon le processus de sa sagesse, de passivité d'amour immaculée, dans la conception incréée de Dieu. Alors, je mets dans, si vous voulez, spirituellement, cette, et je lui demande de me mettre plus profondément encore dans le mystère de l'Immaculée Conception, plus profondément encore dans le Verbe de gloire, pour retrouver un corps spirituel élargi encore selon les pensées incréées de Dieu sur moi. Voyez bien. Alors, à partir de ce moment-là, je me livre à eux, à tout ce monde angélique comme ça. Et je deviens à ce moment-là, donc, le capteur de toute la création et le récepteur de tous les appels métaphysiques de la création. Et eux transmettent cela au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit lui-même, et ils font le retour jusque dans dans tous les lieux, dans tous les temps, en raison de leur agilité et de leur mission. Mais ils utilisent en tout cas mon corps spirituel, parce que mon corps spirituel est un vecteur, et vous le savez bien, en raison d'ailleurs de la nature même du corps originel, étant donné la dimension de l'immensité de l'âme à l'instant donc de la création de mon corps, dans ma première cellule, ils peuvent donc utiliser ça, non pas une fréquence métapsychique, mais une fréquence corporelle, pour rejoindre les autres corps et désagréger le mal, parce que c'est par le corps que le mal est désagrégé, puisque c'est par le corps de Jésus non animé que se fait la jonction de l'Esprit Saint et du Verbe de Dieu dans une seule amour donnée substantiellement, de manière substantiellement passive. Et puisqu'elle est donnée de manière substantiellement passive, il faut bien que l'aspect actif soit produit par quelqu'un d'autre. Or, le Père n'est pas envoyé. Ça, c'est la théologie, c'est la foi. Et donc, il faut bien que l'aspect d'activité, de l'acte, de la diffusion, se produise par la rencontre des trois éléments, et donc par l'offrande que nous faisons, la mise à disposition de tout le monde angélique, pour qu'il puisse donc diffuser tout ce que je vis, toute la très sainte Trinité, toute sa puissance, tout le feu qui brûle le Sacré-Cœur de Jésus. Et là, dans mon cœur, j'en suis le récepteur. Et alors, la diffusion se fait par eux, parce que je m'offre à eux, et le mal est détruit. Je ne sais pas comment expliquer autrement, je suis désolé, Voyez, les anges, tout le monde angélique, résurrection du printemps, matin d'avril, ultima verbis, tout ce que vous voulez, s'emparent de ce que nous leur transmettons et se met en marche le processus du va-et-vient par le Saint-Esprit dans le rayon. Le rayon, je vous l'ai dit, c'est votre corps spirituel, c'est-à-dire vous êtes cet incendie qui part du Sacré-Cœur. Et c'est ça votre corps spirituel. L'incendie qui part du Sacré-Cœur, c'est votre corps spirituel. Je vous l'ai déjà dit. Bon. Se met en marche le processus du va-et-vient par le Saint-Esprit dans le rayon que le ciel tient fixé sur moi, tient fixé sur nous en permanence. D'autres fois, d'une autre manière, je dirais que porté par le feu, le rayon, que je suis, mon corps spirituel, présence du feu qui brûle le cœur de Jésus de la résurrection, je vais en d'autres lieux où les anges à qui je me suis offert peuvent désagréger, désagréger le mal, l'effacer jusqu'à ce que le bien recommence. Vous voyez, je suis emporté partout où il y a du mal. Et à un moment donné, je crois même que la liberté des enfants de Dieu peut dire, tiens, je sais qu'il y a du mal qui se fait. Il y a une réunion qui se fait dans cette petite école où le directeur est en train de faire une réunion avec des parents d'élèves, etc. Et donc, je peux m'offrir. Je peux m'offrir en vivant, je peux vivre la sainteté, étant donné que les saints ont toute puissance, étant donné que mon corps spirituel, c'est la sainteté dans laquelle je serai éternellement. Soyez saints puisque je suis saint. Et puisque je suis vie de la résurrection, et ben alors je m'offre comme ça. Et du coup, je me mets à disposition de tous les anges pour qu'ils se précipitent dans cette réunion de gens qui sont là, dans cette école où se trouvent mes enfants et tout ça. Pour qu'ils viennent, j'allais dire, désagréger, effacer tout ce qu'ils ont dans leur tête, leurs intentions mauvaises, etc. Et toute la réunion, finalement, ils s'engueulent comme du poisson pourri, et la réunion ne se fait pas, et du coup, je ne sais pas comment dire. Mais ça veut dire que, ça veut pas dire que vous vous offrez passivité, et puis là, vous ne faites plus rien du tout, mais c'est au bout d'un sens, ça c'est pour rentrer dans ce que je viens de faire jusqu'à maintenant, c'est de rentrer dans ce que j'appelle l'immunisation. C'est vous sortez de ce monde de ténèbres. Mais dans un dernier temps, il faudra bien sûr, à force de, une fois que on sera habitué, j'allais dire, on sera harmonisé avec nos deux corps seront harmonisés l'un avec l'autre, c'est-à-dire le corps spirituel et le corps terrestre. Alors à ce moment-là, on pourra effectivement jouer le rôle plein de l'activité de la charité fraternelle et de la désagrégation du mal, parce qu'on pourra, on peut déjà commencer à le faire, à condition de respecter le processus autant qu'il est possible. Mais enfin, venir par exemple sachant qu'il y a quelqu'un qui veut faire du mal, je peux utiliser donc précisément la charité ardente du Christ dans mon corps, le service angélique, le processus, j'allais dire, de la charité finale de l'Église, pour que les mauvaises pensées ou les mauvaises intentions de ce groupe d'hommes ou de femmes, ou bien d'un seul personnage, soient perturbées. Alors, quelque part, il perd ses moyens, etc. Il dit, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Et peut-être qu'il peut recommencer à faire du bien après. On ne sait pas. Mais ça, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça fait un peu bizarre, hein, ce que je dis là, mais enfin...
Non, pas du tout. Pas du tout, ça, pas du tout. On demande bien à Marie-Reine, ça, puisqu'elle a fait passer devant pour faire certaines choses.
Bon, par exemple, vous rencontrez quelqu'un. Alors... Dites-vous bien, c'est elle qui fait ce petit conseil. Elle se fait un petit conseil à elle-même. Hein. Bon, vous ne lui direz pas que je vous l'ai lu parce que c'est pas. Elle dit voilà, elle se trouve face à quelqu'un. Elle voit que vraiment ça ne va pas ce mec. Bon. Alors elle ne va pas lui dire écoute, non, faut pas que tu fasses ça, faut pas que tu fasses ça. Non, elle ne fait pas par la parole. Elle est dans l'immunisation, c'est-à-dire qu'elle vide cet amour purement. De satiété pure, dans une agilité qui fait qu'elle est en même temps partout, donc elle est indifférente, son irascible ne va pas se réveiller, son agilité, son impassibilité, sa satiété est satisfaite, elle brûle dans l'amour de Jésus qui la comble, et elle est entièrement portée par la Vierge Marie dans le feu de la résurrection, elle est l'enfant, je suis l'enfant du monde nouveau, dit-elle, la personne est là, mais je suis l'enfant du monde nouveau, voilà ce que je dois réaliser, je suis l'enfant du monde nouveau, le Sacré-Cœur de Jésus, divin cœur de Marie, met en moi par l'Esprit-Saint le processus habituel. C'est-à-dire je m'offre, et la présence divine, la Très-Sainte Trinité, vivante, brûlant mon corps, me protège et m'isole de cette personne. Et immunisation. Et je demande que passe par cette onde protectrice que je vous ai décrit hier dans ce rayonnement, cette vivante présence concrète de la Très Sainte Trinité et sa mission, vous voyez, sa présence vivante, brûlante, lumineuse. Donc je demande que passe par cette onde protectrice les paroles dont je vais me servir. Vous voyez, donc je me plonge complètement dans mon corps spirituel, je vis la très sainte Trinité, je suis entièrement en dehors de cette personne, je suis totalement dehors, je ne me laisse pas prendre, sinon c'est l'irascible qui va répondre. Et puis, une fois que je suis dans cette espèce de gloire, qui elle s'est réfugiée dans quelque chose de tout petit, regardez le corps mort de Jésus, c'est rien du tout. Eh bien, j'utilise cette présence très divine, extraordinaire, glorieuse, pour, et je demande que toutes les paroles dont je vais me servir et qui vont pénétrer dans mon interlocuteur, donc passent par ce feu dans lequel je me trouve. Donc, au lieu de réagir primo primi, ah, mais non, faut pas que tu fasses ça. Non, d'abord, tout ce que je conçois, c'est le Verbe de Dieu qu'il conçoit dans l'Esprit Saint, dans l'Immaculée Conception, le Sacré-Cœur de Jésus. Et dans tout ça, ceci corporellement. Et une fois que c'est brûlé, à ce moment-là, je dis toutes les paroles qui sortent, ben, qu'elles soient brûlées par ça. Et aussi par la présence du monde angélique tout entier. Et que chaque mot soit habité, chaque lettre soit habitée, chaque son soit habité par le processus. Et elles vont donc pénétrer dans mon interlocuteur pour que je sois en permanence dans cette ligne pure. La ligne pure, je vous ai dit ce que c'était, dans l'incendie de mon corps spirituel, puisque le Sacré-Cœur de Jésus, c'est un feu qui brûle son corps, son cœur, son amour, dans le Verbe de Dieu. Mais l'incendie, c'est moi. C'est mon corps spirituel, c'est l'incendie du Sacré-Cœur de Jésus. Et c'est ça, cette ligne pure. Il me suffit, pour rester en permanence dans cette droite ligne, cette ligne pure, il me suffit de répéter de temps à autre, je reste brûlé par le feu de votre Sacré-Cœur, Jésus, dans le processus habituel. Et tandis que je me répète cela, les paroles que je dis pénètrent dans mon interlocuteur pour désagréger son mal. Ce qui fait que toutes les forces ou les ondes divines de la grâce et de la gloire de la très sainte Trinité, la présence du Saint-Esprit demeure en permanence autour de mon corps spirituel. Et mon corps humain qui face à mon interlocuteur peut capter toutes ces illuminations, rayonnements, grâces et ondes à l'instant voulu. Ne cherchez pas à voir trop vite. Ne cherchez pas à voir trop vite et projetez-vous dans l'éternité. Car dans l'éternité, tout se réalise, peu importe le temps. Donc ce que vous dites se réalise, même si vous ne le voyez pas, peu importe le temps. Et projetez-vous donc dans le temps où il se réalisera, en vous projetant dans l'éternité où il se réalise. C'est joli. Car c'est là où vivent et agissent vos corps spirituels. Là, vous êtes sûr de vous trouver à tout instant nécessaire. Les premiers enfants du monde nouveau sont attirés avec nous, c'est la Vierge qui parle. Les premiers enfants du monde nouveau sont attirés avec nous sur un autre lieu que votre lieu terrestre, tout en restant terrestre. Plus vite ils en prendront conscience, plus ils seront féconds pour que le monde soit transformé, comme vous l'a dit saint Paul. Car ils seront protégés dans leur humanité pour lui permettre d'agir au centuple de ses capacités. Tu t'es livré et du coup, tu auras le centuple. Dès cette terre, c'est Jésus qui le dit. Voici donc la marche à suivre, prenez-en conscience, écrivez-la, relisez-la et inscrivez-la dans votre corps spirituel pour qu'elle se réalise dans vos paroles, dans vos mots et dans vos actes.